VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 18h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique ici aux États-Unis. La transition de l'administration Obama au futur gouvernement du président élu Donald Trump s'accélère. Le milliardaire républicain s'est entretenu ces derniers jours avec les leaders de 5 pays, Grèce, Hongrie, Panama, Slovénie et Suède, a déclaré aujourd'hui le comité en charge de la transition. Quel sera le prochain chef de la diplomatie américaine? C'est la grande question que l'on se pose ici à Washington. Les fervents partisans du prochain locataire de la Maison-Blanche refusant que ce poste stratégique revienne au modéré républicain Mitt Romney, ex-ennemi juré du milliardaire. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le secrétaire d'État est considéré comme la voix et le visage de l'Amérique à travers le monde, donc il s'agit d'un poste important qui fait l'objet d'une âpre bataille pour savoir qui succédera au démocrate John Kerry à la tête du département d'État, ministère des Affaires étrangères de 70 000 employés, pilotant le premier réseau diplomatique de la planète. Citant des sources de l'équipe de transition, le New York Times avance que l'entourage du président élu se déchire entre l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, et le candidat républicain malheureux à la présidentielle de 2012, Mitt Romney. Monsieur Giuliani, soutien de la première heure de Monsieur Trump, mais sans expérience en politique étrangère, avait dès le début exprimé son désir de diriger la diplomatie. Cet ancien maire de New York considérerait même ce poste comme devant naturellement lui revenir. Face à lui, M. Romney, un républicain battu en 2012 par le président démocrate sortant Barack Obama, représenterait une formidable prise pour Donald Trump parce qu'il pourrait rassurer les centristes du Parti républicain et les alliés des États-Unis qui s'inquiètent du saut dans l'inconnu de la politique étrangère du magnat de l'immobilier. Mais cet ex-gouverneur du Massachusetts, que l'on compare dans le style à John Kerry, avait traité le candidat Trump aux primaires de charlatan et d'imposteur. Et des caciques républicains loyaux de la première heure du prochain 45e président ne manquent pas de dire tout le mal qu'ils pensent de l'option Romney au département d'État.
Afrique maintenant, en Côte d'Ivoire, un autre procès de la crise post-électorale de 2010-2011 s'ouvre ce lundi à Abidjan. C'est le procès dit des disparus du Novotel. À l'époque des fêtes, l'ancien directeur de l'hôtel Novotel et 3 clients ont été enlevés puis tués en avril 2011 pendant la crise post-électorale ivoirienne. Selon l'acte d'accusation, 10 personnes seront dans le box des accusés, 5 dont le général Bruno Dogbo-Blé, proche collaborateur de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son épouse Simone pour séquestration et assassinat. Les autres répondant de l'accusation d'enlèvement et ou de disparition de cadavres. Mauritanie, quelques 3000 Maliens fuyant le regain de violence dans le nord de leur pays sont arrivés depuis septembre en territoire mauritanien, grossissant les rangs de leurs compatriotes déjà sur place à Mbeira, dans le sud-est de la Mauritanie. C'est ce qu'ont annoncé à Nouakchott des agences onusiennes, John Lyndon.
Depuis septembre, 3000 réfugiés maliens ont gagné le camp de Mbeira et sont encore en phase de recensement et de traitement pour leur prise en charge, a déclaré François Reynaud du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Mauritanie lors d'une conférence de presse. D'après les chiffres du HCR, ce camp accueillait avant leur arrivée près de 43 000 réfugiés maliens. Selon François Reynaud, les nouveaux venus ont fui l'instabilité et l'insécurité dans les régions limitrophes du Mali avec la Mauritanie, notamment la zone de Léré dans la région de Tombouctou, au nord-ouest du Mali. Le programme alimentaire mondial en Mauritanie est inquiet. 17 millions de dollars seront nécessaires pour les 6 mois à venir et 31 millions de dollars pour l'année 2017 pour assurer la prise en charge des réfugiés. Hier, le Japon a annoncé un don financier de 9,4 millions de dollars en faveur du camp de Mbeira, mais aussi des populations des zones riveraines.
Au Mali même, le numéro 2 d'une faction du groupe djihadiste malien Ansar Dine, opérant dans le nord du pays et mis en cause pour une embuscade meurtrière contre l'armée le 20 novembre, a été arrêté jeudi à Gao dans le nord-est. C'est ce qu'affirment des sources militaires et de sécurité maliennes. Ces mêmes sources disent qu'il s'appelle Atahir Ag Ihadou et serait le responsable adjoint de la faction d'Ansar Dine ayant mené l'attaque contre un convoi de l'armée malienne transportant des urnes après le vote pour les élections municipales du 20 novembre dans une localité proche de Tombouctou. 5 militaires et 1 civil avaient été tués dans cette opération.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Politique en RDC, l'UNC de Vital Kamerhe et ses alliés participeront au prochain gouvernement d'union nationale du Premier ministre Sami Badibanga. C'est l'option retenue par le bureau politique de l'UNC élargi à ses alliés. L'annonce a été faite après leur entretien avec le Premier ministre Badibanga, mais l'UNC a posé plusieurs conditions à sa participation. On écoute Vital Kamerhe au micro de Walter Nkoui de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous avons dit au Premier ministre exactement ceci. L'UNC et alliés acceptent de vous accompagner, Monsieur le Premier ministre Sami Badibanga, dans l'application de l'accord du 18 octobre pour amener le pays jusqu'aux élections. Mais vous devez tenir compte de la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans le Grand Nord. Et si je parle de Beni, Butembo, Lubero, Rutshuru, Masisi, vous connaissez toutes ces contrées-là. Deux, vous devez tenir compte de la représentation plus ou moins 30% des femmes, mais aussi des jeunes dans le gouvernement. Il faut innover. Vous devez absolument, dans le cadre de l'application de notre accord, poursuivre les mesures de décrispation politique et le respect strict des droits humains. Et nous pensons que nous avons rencontré l'attention du Premier ministre. Et s'il dit ce qu'il a promis, il risque d'apporter une innovation et réussir.
Vital Kamerhe, leader de l'UNC en RDC. Rwanda, Kigali réclame des excuses du Vatican pour le rôle des catholiques dans le génocide rwandais de 1994. Le gouvernement du Rwanda a jugé profondément inadéquates les excuses présentées dimanche dernier par l'Église catholique rwandaise à l'occasion de la clôture par le pape François de l'année sainte de la miséricorde. Pour une réaction, Eric Maniracusa a joint à Rome l'abbé Janvier-Marie-Gustave Yameogo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone au sein du secrétariat pour la communication Vatican.
J'ai visité le Rwanda en 1996, donc 2 ans après le génocide. Je suis allé à Kibeho où j'ai vu les murs de l'église encore avec les traces de sang. C'était assez vif et j'ai écouté plusieurs témoins survivants à l'époque. Et vraiment, c'était horrible. On a raconté les horreurs. Des prêtres ont été tués. Des prêtres ont tué leurs collègues. Des séminaristes ont massacré des camarades séminaristes, des religieux, des religieuses également. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez qu'il y a des prêtres qui sont en prison, des religieux, des religieuses qui sont en prison. Il s'agit d'une église qui est à la fois victime et bourreau. De nombreuses églises ont été le théâtre de tueries et de masse. Et dans cette situation, que l'église se reconnaisse en tant qu'entité morale coupable du génocide, c'est là, je pense, le nœud du problème.
Il y a le gouvernement, par exemple, qui veut des excuses du Vatican lui-même. Quelle est votre considération là-dessus?
Je pense que le pape Jean-Paul II, durant le génocide lui-même, au mois d'avril 1994, a appelé d'une voix suppliante le peuple rwandais de ne pas céder au sentiment de haine et de vengeance, de pratiquer courageusement le dialogue et le pardon. C'est vrai, c'est une tragédie qui a été vécue par tout le monde entier et l'Église aussi en a souffert. Même plus tard, le pape Jean-Paul II a envoyé le cardinal Etchegaray spécialement dans cette situation. Ce qui est dramatique, c'est que ce sont des chrétiens, effectivement, qui ont massacré d'autres chrétiens. De là à dire que l'Église est coupable, oui, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu une Église qui a planifié et donné des ordres. Il y a eu des individus qui ont participé, des particuliers. Mais quand il s'agit maintenant de reconnaître une responsabilité du Vatican, je pense qu'à ce niveau, c'est assez délicat. Je vous rappelle qu'il y a eu 3 évêques qui ont été assassinés dès le départ. Et je rappelle toujours ça. Il y a des morts de part et d'autre. Il y a eu des actes de lâcheté de part et d'autre. Il y a eu des actes de bravoure aussi de part et d'autre.
L'abbé Janvier Marie-Gustave Yameogo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone au sein du secrétariat pour la communication au Vatican. Et pour terminer, en Angola, les autorités angolaises ont interdit la manifestation prévue demain samedi par des opposants pour dénoncer la nomination de la fille du président José Eduardo dos Santos, Isabelle, à la tête de la Sonangol, la compagnie nationale pétrolière. Selon M. Tonnette, qui est le directeur d'un journal d'opposition, les autorités ont justifié leur décision par le fait qu'une marche sur le rôle de la femme religieuse dans la consolidation de la paix en Angola est prévue le même jour et au même endroit. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.